le rendez-vous Génération, l'émission pour toutes les générations, conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Vous avez 60 ans et plus ? Vous habitez en Haute-Garonne ? Rejoignez-nous et participez à l'aventure Génération. Ce projet est porté par l'association Artis et financé par la conférence des financeurs du conseil départemental de la Haute-Garonne. La participation à Génération est gratuite.
Bref.
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 Alors, ces trucs astuces. Les adolescents n'ont pas beaucoup changé. Ils grandissent, quittent la maison et se marient. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ne le font pas toujours dans cet ordre.
Un texte dans ma vie.
Un texte dans ma vie.
Cette fois-ci, pour la rubrique lecture, j'ai choisi tout autre chose. Mon entourage me demande pourquoi j'ai choisi Sacha Guitry. Tout simplement, j'aime les gens provocants, qui font réfléchir un peu à leur sujet. Les gens sérieux qui parlent sans se prendre au sérieux. Sacha Guitry est très connu pour ses piques à la fois incisives et tendres qu'il lance contre les femmes. Et je cite, « Je suis contre les femmes, tout contre », que vous connaissez sans doute. Donc, Sacha Guitry est né à Saint-Pétersbourg en Russie en 1885 dans un milieu théâtral. Il écrit 184 pièces de théâtre, un succès pour la plupart, et il réalise 36 films, dont 17 adaptations à ses pièces. Il est dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français. Son nom est proposé à l'Académie française, mais il refuse puisqu'il n'abandonnera pas son activité de comédien. Il reçoit néanmoins de nombreuses distinctions, y compris le commandeur de la Légion d'honneur en 1936. S'il disait tant de choses sur la femme et l'amour, selon mes recherches, il a tout de même été marié 5 fois, mais je ne trouve nulle part des enfants issus de ces mariages. Il meurt à Paris en 1957, a donc 72 ans. Je vous laisse écouter Patrick lire 2 extraits du livre « Pensées, Maximes et anecdotes » de Sacha Guitry. J'adore. Mais mesdames, je vous préviens, ces 2 extraits peuvent sembler amusants, même un peu frivoles. Mais c'est sûr, ça risque de vous faire grincer les dents.
Quand elles sont infidèles, les femmes ne comprennent pas que l'on attache tellement d'importance à leur trahison. Mais quand elles sont fidèles, elles sont surprises que l'on n'attache pas une plus grande importance à leur fidélité. Cela tient à ce qu'elles se considèrent assez irresponsables des fautes qu'elles ont commises. Elles leur trouvent bien des excuses et parfois même d'assez bonnes raisons, tandis que leur fidélité leur apparaît comme une action d'éclat renouvelée chaque jour. Tout le monde est de mauvaise foi en amour. Il faut bien mentir, puisqu'on trahit. On ment par pitié, par colère, par fatuité. Et puis, on ment pour mentir, par habitude, par volerie. Je condamne le mensonge lorsqu'il nuit à autrui ou qu'il profite à celui qui le commet. En revanche, quand il n'est pas préjudiciable, il m'intéresse. Et surtout, quand il est imposé par les circonstances, je l'excuse et même quelquefois je le pratique.
Je vous avais prévenu, mais merci Sacha Guitry et merci Patrick d'avoir partagé avec nous quelques écritures de Sacha Guitry. Peut-être un peu misogyne, me dites-vous.
Quand même, c'est sacrément misogyne.
Ouais, j'aime bien rien dire.
Mais ça fait partie des hommes qui ont profité des femmes, c'est tout.
Bah, oui, mais enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui profitent des hommes.
Hein?
je trouve.
Et donc?
Non, mais je trouve que c'est les deux, quoi. Il y a, à mon époque, déjà, on n'allait pas chercher un homme comme ça. Aujourd'hui, les jeunes femmes le font. Eh ben, les hommes le font, les femmes le font, et c'est tout.
Ça a évolué.
C'est l'égalité.
Concernant Sacha Guitry, bon, il reflète tout à fait l'esprit d'époque, hein, ça c'est sûr. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il a fait connaître et jouer beaucoup de comédiennes, malgré tout. Il y a les mots, il y a aussi les actes.
Oui, ouais. Exact. Oui, je pense.
Bref. Christiane, qu'est-ce que c'est apprendre par cœur ?
Eh bien, cette expression est née au Moyen-Âge. Depuis l'Antiquité, le cœur était souvent considéré comme le siège de l'intelligence, de la mémoire et des sensations, sans doute à cause de l'accélération du rythme cardiaque lors des émotions fortes. Et puisqu'on parle de cœur, ce ne serait pas le moment de la rubrique santé de Josie ?
Malade, toi, ça peut me guérir.
Donc, je vais vous parler des oméga-3. Réduire les risques cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France. Dans la plupart des cas, elles sont liées à la formation de caillots dans les artères qui entravent la circulation du sang et de l'oxygène en direction du cœur. D'étude en étude, des chercheurs ont démontré qu'un régime riche en acides gras oméga-3 pouvait réduire les risques d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Atténuer les douleurs osseuses et articulaires. Les oméga-3 exercent une action anti-inflammatoire générale en inhibant les effets des substances inflammatoires telles que les prostaglandines. Cette propriété est particulièrement utile contre les douleurs et raideurs articulaires provoquées par la polyarthrite rhumatoïde. En pratique, la prise de compléments à base d'huile de poisson permet souvent de réduire les doses d'aspirine ou d'autres antalgiques anti-inflammatoires pris contre ce type de trouble. Ce qui est bon pour les articulations semble également l'être pour les os, surtout pour les femmes ménopausées qui souffrent d'ostéoporose. Une étude a montré que la prise d'oméga-3 pendant 18 mois avait pour effet de densifier les os et de réduire le risque de fracture. Une multitude d'autres applications. Réduire les douleurs intestinales, améliorer la santé psychique, atténuer les symptômes du lupus, calmer les douleurs menstruelles, peut-être prévenir le cancer. Des résultats préliminaires suggèrent que les huiles de poisson contribueraient à prévenir les cancers du sein et du côlon. Les sources alimentaires d'oméga-3. Les aliments riches en oméga-3 sont les poissons gras, saumon, maquereau, thon frais et sardines fraîches ou en conserve. Essayez d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le poisson, prenez des gélules d'huile de poisson et privilégiez les autres sources d'oméga-3. Huile de colza, de noix, de soja et graines de lin. Graines de lin qui ne se cuit pas. Rancit rapidement et peut alors devenir toxique. Elle doit être conservée au réfrigérateur et consommée très vite après ouverture. Elle est interdite à la vente en France, mais vous en trouverez sur Internet. Achetez par petites quantités à la fois et assurez-vous que les contenants sont opaques. Les graines de lin doivent être broyées ou moulues, pas trop finement. On peut les ajouter à des yaourts ou à des salades. Conservez les restes quelques jours au réfrigérateur. À propos d'huile de poisson, il est préférable de conserver les compléments au réfrigérateur car les huiles de poisson sont fragiles et rancissent rapidement. La dose de complément recommandée est de 2 à 5 grammes par jour, mais il est important d'adapter la posologie au cas par cas en tenant compte du régime alimentaire et de l'objectif de la supplémentation préventif ou thérapeutique. Un nutritionniste ou un médecin peuvent être de bons conseils. Voilà.
Merci Josie, c'était très intéressant. Je me demande si je ne vais pas faire un petit peu de saumon ce soir. Ce sera bien pour les oméga-3 ?
Bien sûr, c'est riche en oméga-3, c'est sûr.
Ok, et bien moi je vous le conseille avec des lentilles, essayez saumon lentilles, c'est génial.
Vous savez tout sur les oméga-3.
Je suis malade, complètement malade.
Rubrique.
Une femme dans un monde d'hommes. « Christiane va nous parler de la présence d'une femme dans un monde d'hommes, à travers la musique classique en particulier.
Il y a quelques semaines, j'ai vu à la télé une des rares femmes chefs d'orchestre de France. Et ce qu'elle a raconté m'a tellement intéressée que j'ai eu envie de partager avec vous ce que j'ai découvert sur le monde de la musique classique et plus particulièrement de la place des femmes dans ce milieu. Il faut savoir que si on compare par rapport au théâtre ou à la danse, eh bien c'est le domaine professionnel le moins féminisé. Au conservatoire au XIXe siècle, les instruments qui mettaient en jeu le souffle, la salive ou la force étaient carrément interdits aux femmes. Et le dernier instrument à s'être féminisé dans l'orchestre, eh bien bizarrement, ça a été la clarinette. Parce qu'on doit mettre tout le bec dans la bouche et c'était jugé très inconvenant. Et même la harpe, où il faut basculer l'instrument entre les jambes, ou le violoncelle, eh bien c'était considéré comme pas convenable pour des femmes. Si bien que encore dans les années 70, quasiment aucune femme n'exerçait dans un orchestre permanent professionnel. Les années 70, eh bien c'est à cette époque qu'on a commencé à faire des auditions derrière paravent. C'est parti des États-Unis et c'est arrivé ensuite en France. Et on conseille même aux femmes, pour ces auditions à l'aveugle, de ne pas mettre de chaussures à talons et de ne pas répondre si on leur dit bonjour pour qu'on ne puisse pas les repérer. Eh bien, la présence du paravent a doublé les chances des femmes d'accéder au tour suivant. Et c'est comme ça que ça a permis d'augmenter le pourcentage de musiciennes femmes dans les orchestres, qui est maintenant d'un tiers à peu près. Alors, il faut quand même savoir qu'au niveau des solistes, on est uniquement à 20%. Allez, une courte parenthèse musicale avec un extrait de la sonate en fa mineur de Scarlatti. Agnès Clément est à la harpe. Mais au niveau de l'orchestre, il n'y a pas que les instruments. Et oui, il y a aussi le chef d'orchestre. Et là, on commence à parler d'une discipline qui est l'une des moins féminisées du monde musical. Il y a un écart immense entre la progression du nombre de musiciennes par rapport à la progression du nombre de femmes chefs. Elles sont effectivement encore très largement minoritaires puisqu'on les estime à peu près 4% au niveau mondial. Et attention, parce que ce chiffre peut être un peu trompeur, parce que quand on parle de grands orchestres ou de grandes œuvres, le pourcentage est inférieur. C'est plutôt au niveau des petits ensembles qu'on va rencontrer le plus de femmes. Alors les mentalités évoluent, mais c'est encore bien difficile. Et c'est vrai que dans l'histoire de la musique classique, les femmes ne dirigeaient pas les orchestres. On a quand même quelques exemples, comme Jeanne Poulet, qui est devenue la première femme chef d'orchestre en France en 1930, sous le nom de Jeanne Évrard. Mais elle va diriger uniquement des orchestres 100% féminins et un orchestre qu'elle a dû elle-même créer. Aux États-Unis, il y a eu Emma Roberto Steiner, une pianiste virtuose et une compositrice, et chef d'orchestre donc, qui a dirigé ses propres œuvres à la fin du XIXe siècle. Plus récemment, on peut citer Claire Gibault, Marine Alsop ou Emmanuel Haïm. Mais s'il est vrai qu'il y a quelques exemples un petit peu anciens quand même, ce n'est quand même qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle que les premières chefs commencent à s'imposer. Et ces pionnières se retrouvaient souvent face à des orchestres qui n'acceptaient pas d'être dirigés par une femme, et cela même pendant les répétitions. Avant la suite, un extrait du concerto pour violon numéro 3 de Mozart avec Alexandra Konunova au violon. Ah, comme vous l'avez compris, le domaine des chefs d'orchestre, c'est un domaine où les femmes vont aussi rencontrer le fameux plafond de verre, ce plafond, cette limite que les femmes n'arrivent pas à passer, et pour les raisons que l'on rencontre trop souvent dès que des femmes essayent d'accéder à des postes à responsabilité. On va déjà avoir une forte prédominance masculine chez les décideurs, et certainement aussi un problème générationnel. Des chefs ou des directeurs d'institutions d'un certain âge ne vont pas mettre sur un même pied d'égalité les chefs hommes et les chefs femmes, par manque d'habitude, par fierté masculine ou par jalousie. Discrimination sexiste de base donc, mais aussi discrimination sur le physique. Il faudrait en plus que les chefs femmes soient des jeunes filles belles et sexy. Et puis on a le poids des stéréotypes. Le charisme et l'autorité sont considérés comme typiquement masculins. Est-ce qu'une femme va avoir assez de force physique ou mentale pour diriger un orchestre? Encore très récemment, et alors vraiment très récemment puisque je vous parle de 2018, un chef a déclaré qu'être chef et femme était une contradiction biologique. Et la raison? Eh bien, les femmes auraient les bras tournés vers l'avant, et c'est naturel parce qu'elles doivent porter des bébés. Et voilà. Et en plus, on favorise l'immersion des garçons, qui peuvent donc tâtonner, se faire la main, et donc acquérir un bon geste, alors que les femmes, si elles ne peuvent pas s'entraîner, eh bien, elles vont avoir beaucoup plus de mal à avoir la bonne attitude. Il reste encore du chemin à faire, comme vous pouvez le voir, mais les choses évoluent quand même un peu, même si malheureusement, il faut noter que la France reste en retard si on compare avec les États-Unis ou la Finlande. Nous allons maintenant faire un zoom sur une chef d'orchestre française, mais avant une parenthèse musicale avec un extrait du concerto pour piano de Chopin. La soliste est Martha Argerich. Nous sommes de retour dans la chronique Une femme dans un monde d'hommes et nous allons maintenant faire un zoom sur Claire Gibeau. Celle-ci est une des rares femmes chefs d'orchestre. Elle est née en 1945. Son père est professeur de solfège au conservatoire. Elle apprend le violon. À 13 ans, elle obtient le premier prix de violon Mais ce qu'elle veut faire, c'est déjà être chef d'orchestre, même si on lui dit que c'est un rêve de garçon manqué. Une petite séquence musicale avec un extrait du concerto pour violon de Tchaïkovski, interprété par Sarah Nemtanu. À 18 ans, elle est la troisième femme de l'histoire à entrer en classe de direction d'orchestre au Conservatoire National de Paris. À 24 ans, elle obtient le premier prix de direction d'orchestre. Quand elle a 24 ans, nous sommes en 1969. Et elle fait la une de France Soir avec Neil Armstrong, qui vient de marcher sur la Lune. À 42 ans, elle fait une demande d'adoption. Mais cette demande lui est refusée, car elle a un métier qui n'est pas convenable. Elle adopte au Togo et elle va découvrir le racisme au travers de ses enfants. Elle a dirigé à l'Opéra de Washington avec Placido Domingo, à Covent Garden à Londres, à Berlin, à la Scala de Milan. Mais en France, impossible de se faire une place. Elle pose sa candidature à l'orchestre de Rennes-Bretagne et à l'orchestre de chambre de Toulouse, mais éliminée sur dossier, sans même avoir été reçue. Une pause avec un extrait du Triomphe du temps et de la désillusion de Handel sous la direction de Emmanuel Haïm. En 2010, Claire Gibault fonde son propre orchestre, le Paris Mozart Orchestra, sans financement public, uniquement avec l'aide de fondations familiales ou d'entreprises. Avec son orchestre, elle souhaite ouvrir la musique à tous et va à la rencontre de populations éloignées de la musique classique. Les prisons, les cités, les quartiers défavorisés. L'orchestre a mis en place une charte de non-discrimination qui est signée par tous les musiciens. Parité absolue homme-femme. En mars 2020, Claire Gibault organise avec la Philharmonie de Paris le premier concours international de chefs d'orchestre, femmes, avec un jury paritaire de 3 chefs femmes et de 3 chefs hommes. Actuellement, aucune femme n'est directrice d'un orchestre permanent en France. Mais il va enfin y en avoir une première en septembre 2020 à Avignon. Toutes les autres, comme Claire Gibault, ont dû créer leur propre ensemble. Claire Gibault a maintenant 74 ans. Elle continue à monter des projets et elle se bat contre toute forme de discrimination. Je crois que c'est un bon exemple pour Génération. Nous allons clôturer cette rubrique avec la symphonie numéro 5 de Beethoven, Allegro, dirigée par Claire Gibault.
Thank you.
Restons toujours dans l'art, mais maintenant parlons de peinture, et plus particulièrement d'Eliane Fantini, notre amie et voisine, puisqu'elle habite la Serre. L'année dernière, elle avait quitté ses pinceaux de temps en temps pour rejoindre le projet Génération. Pour ceux qui ont vu le spectacle, elle jouait le rôle de la geek, accro de son portable. C'était un rôle sur mesure, parce qu'Eliane n'est pas la dernière pour faire un selfie ou poster des articles sur Facebook. En tout cas, c'est une sacrée peintre, mais c'est aussi une sacrée comédienne. Actuellement, elle expose certaines de ses œuvres au Café associatif de la Serre. Nous aimerions partager avec vous un texte écrit par Chantal Galichet à l'occasion d'une exposition précédente d'Eliane.
C'est l'histoire d'un retour au pays. Au village, la bonne nouvelle bruisse circule. Eliane Fantini est de retour. C'est l'histoire d'un retour à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, le blanc, comme un hommage à toutes celles et ceux qui lui ont tendu la main. Le blanc pour effacer, abolir, noyer dans le tableau les obstacles qui ont jalonné ces années d'absence. Le blanc comme une reconquête. Au départ, sur la toile, des aplats de couleurs vives, des couleurs de hasard, récupérées sur les palettes d'enfants qui étaient là, quelques instants plus tôt, qui étaient là dans l'atelier. Ils sont partis maintenant, fièrement, leur tableau sous le bras. Ils ont peint toute la matinée dans la clarté d'Eliane, dans l'exigence d'Eliane, dans la bonté d'Eliane. Une volée de moineaux qui s'en va, des bises qui claquent, des promesses qui s'échangent. On revient à ton prochain atelier, garde-nous une place. Brusquement, le silence, le vide, la fatigue de la matinée qui plombe. Restent les palettes aux couleurs inutilisées. La peinture sèche, si on l'oublie. Alors, Eliane récupère et sur de grandes toiles donne vie à ce que les enfants ont laissé derrière eux. Le blanc viendra après, par-dessus. Le blanc viendra recouvrir, raconter une autre histoire. Le blanc, c'est ce désir de travailler ce qu'il y a de plus difficile. La couleur. La couleur, Eliane Fantini sait faire. Le blanc vient réinterroger son travail de peintre, la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle évoque un ami de Bretagne qui lui écrivait à l'époque de sa vie où elle avait renoncé à la peinture. Eliane, faite du blanc. Inlassablement, l'ami de Bretagne lui envoie ce message, le blanc, comme un silence pour soi-même, le blanc comme une prière, le blanc comme une recomposition de l'âme, une sublimation de ce qui a pu la faire tomber, le blanc, cette interrogation de l'absolu. Alors, Eliane part en Bretagne et la peinture reprend vie, soudain dans la brume, la lumière de la mer, le ciel qui touche l'horizon. Plus tard, elle continuera ce chemin de la couleur vers le blanc. À force de touches claires, c'est presque un retour à la page blanche. Le blanc pour dire peu, montrer peu, ne pas oublier pourtant les cadeaux du hasard, ce qui surgit au détour de la toile. Lorsque les fonds réapparaissent, le sable, le marc de café, le papier de soie, la dentelle, autant de plis qui accrochent le clair, lui donnent relief et fil à retordre. Sensualité, vie, envie de caresser cette patte picturale, douce comme la peau d'un homme ou d'une femme. Parfois lissée, parfois griffée au couteau, parfois grand espace, parfois accident, parfois tendresse, parfois colère. Rabattre les contrastes pour revenir au blanc. Ce tremblement de lumière où toutes les couleurs du spectre se confondent. Le blanc, cette ultime recherche. Cette exposition, c'est le testament d'un peintre qui a failli se perdre et qui nous revient, au plus près de sa vérité. Dans un éclatement d'aile, Eliane Fantini plonge très loin dans son océan intime et ramène à la surface un arbre-lumière, des femmes généreuses, un pêcheur égaré, des porteuses d'or, le soulier de la Mère de Dieu. Son trésor était caché au pied de l'escalier. Il aura fallu 15 ans d'absence pour qu'elle puisse enfin l'offrir à nos regards.
C'est l'heure de la
musique chronique.
Génération.
Nous vous racontons
la petite histoire
cachée derrière
une grande chanson.
Et comme les artistes nous ont beaucoup inspirés ce mois-ci, nous allons faire un retour à la musique avec Margaret, qui va nous parler d'artistes toulousains. Ça ferait certainement beaucoup plaisir à Eliane, parce que je crois que Margaret va parler entre autres de Claude Nougaro, qu'Eliane adore. À toi, Margaret.
Amateur dans le sujet, j'ai embarqué sur une étude musicale de la Ville Rose, Toulouse. Sur un plan personnel, je me trouve à Toulouse depuis 2005. J'adore la musique de tout genre, pop, jazz, blues, classique, etc. Curieuse aussi, j'aime aller aux concerts que cette belle ville et ses environs proposent. Mais quel chanteur ou chanteuse est de Toulouse? Bien sûr, vous dites tout de suite Claude Nougaro, né à Toulouse en 1929. Trop facile. Ses parents étaient tous les deux musiciens et souvent en tournée, donc Claude est élevé par ses grands-parents dans le quartier des Minimes. Que dire de lui? Auteur, compositeur, interprète et poète. Il est grand amateur de jazz, musique latine et africaine. Pas besoin d'en dire plus, donc rendons hommage à un des plus grands chanteurs français.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des Minimes. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
Mais il y a aussi bien d'autres qui viennent de la Ville Rose. Par exemple, Jane, née à Toulouse en 1992. Jeune, elle parcourt le monde puisque son père travaille pour une compagnie pétrolière, ce qui lui vaut une introduction à différents styles musicaux. Elle écrit et chante une musique bien à elle. Les musiques du monde la rendent unique. Pas danser sur cette musique à un bal de fête nationale du 14 juillet ou à un mariage. Le groupe Image, aussi de Toulouse, sort un tube qui restera numéro 1 pendant 13 semaines en 1986. Et pour la petite histoire, en 1999, ils sont rejoints par Émile, ancien chanteur de Gold, qui n'est pas de Toulouse, mais est de la région puisqu'il vient des environs de Gaillac. Le groupe devient Émile et Image.
Thank you.
Et maintenant, les membres de ce groupe Zebda sont tous du quartier des Isards à Toulouse. Ils sont très engagés sur un plan politique et culturel dans la ville qui les a vus grandir. Ils sont principalement connus pendant les années 90, mais on entend souvent cette chanson au mariage. Zebda veut dire beurre en arabe, beurre à tartiner ou pour faire la cuisine par exemple. Mais bien sûr, Zebda est un jeu de mots, beurre qui désigne l'arabe. Zebda est un métissage de sons, mais voici le disque que beaucoup d'entre vous connaîtront. Florian et Olivio Ordonez naissent frères à Villeneuve-sur-Lot. Ils arrivent à un jeune âge dans le quartier des Minimes de Toulouse. Eh oui, eux aussi. Après une formation musicale, Olivio étudie la trompette et Florian la batterie et le piano au conservatoire de Toulouse. C'est en écoutant « Je voulais » de Sully Seffi que les deux frères commencent à rapper à 9 et 6 ans. Ils entament une carrière musicale ensemble et vers 2005, ils sortent un clip « Fier d'être Toulousain » où ils revendiquent l'amour pour Toulouse.
On est fiers d'être Toulousain. Et on est fiers 31 et on est fiers d'être Toulousain, ouais. Et on est fiers 31 Toulouse occitane, Toulouse est bénévole. Bon, c'est pas la capitale, mais on a le Capitole. À fond toulousain, dans nos tripes, dans nos reins. Donc pour rapper Toulouse, on se met sur notre 31.
Malheureusement, la présentation arrive à sa fin. Mais oui, vous êtes en train de vous dire que j'en ai oublié. Sûrement. Et je présente mes excuses à tous ceux et à toutes celles que j'ai oubliées. Et pour me faire pardonner, je vous offre encore un dernier morceau de Claude Nougaro, que j'aime tant. La prochaine fois, je vous parlerai de quelques musiciens de Toulouse, moins connus en France et dans le monde, mais qui ne manquent ni de mérite, ni de qualité musicale.
Ah, tu verras. Tout recommencera, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras. Je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu meuras
ramassera dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Bref.
Bref.
Bref. Josiane, tu peux nous expliquer d'où vient donner sa langue au chat?
Alors, l'origine.
Autrefois, on disait jeter sa langue au chien. Cette expression avait un sens dévalorisant, car à l'époque, on ne jetait au chien que les restes de nourriture. Jeter sa langue au chien signifiait alors ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Petit à petit, l'expression s'est transformée pour devenir donner sa langue au chat. Au XIXe siècle, en effet, cette époque, le chat était considéré comme un gardien de secret. Sa parole serait donc de valeur considérable et il pourrait s'agir, en donnant sa langue au chat, de lui prêter la parole pour qu'il nous donne la réponse à une devinette.
C'était le rendez-vous Génération avec aujourd'hui
Jeg,
Margaret,
Christiane,
Josie
et la participation de Patrick.
Au mois prochain pour un nouveau rendez-vous Génération.